Voilà, alors cette semaine est bien chargée, il y a beaucoup de choses, il y a des rendez-vous presque tous les jours pour les uns et les autres, mais en tout cas on est heureux de pouvoir nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Et ce soir, alors nous avions vu la semaine, il y a 15 jours, la construction, hein, voilà, donc il y a des, comme je vous avais dit, il y a des gens qui font le tabernacle, qui le construisent, qui le, à l'identique, enfin pas tout à fait avec les mêmes matériaux, hein, parce que... on voit un peu, ça donne une idée de ce dont on parlait la dernière fois, ces fameuses planches assez épaisses, hautes de 5 mètres, en bois d'acacia, recouvertes d'or, et qui étaient attachées les unes aux autres, soit à la fois extérieurement, mais aussi intérieurement, une barre qui transperçait toutes les planches, et qui les unissait aussi, dans quelque chose d'invisible et de précieux. Donc c'était aussi une belle illustration. Alors une fois qu'on monte les planches comme cela, donc 5 mètres de haut, ça fait haut quand même. Vous vous imaginez la grandeur, parce qu'il va falloir les couvrir. Les couvrir avec des couvertures. Et donc vous imaginez la taille des couvertures qui aussi autour de 300 mètres carrés. C'est quelque chose, c'est... Une, ouais. Donc, on va voir les mesures, là, vous les avez, hein, en calculant. Donc, c'est quelque chose d'assez immense. Et ce soir, nous allons commencer avec Exode 26. Exode 26. Où nous lisons, tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y présenteras des chérubins artistiquement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. Donc 4 coudées, c'est
2 mètres.
2 mètres sur 15. Donc, voilà. Donc déjà, 2 mètres sur 15, un tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble, les 5 autres seront joints ensemble. Après, tous ces tapis sont mis ensemble et vont constituer la première couverture. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes et le tabernacle formera un tout. Ça, c'est la couverture, parce qu'en fait, des couvertures, extérieurement, vous voyez ça. Hein. Mais ce n'est pas qu'une couverture. En fait, il y en a quatre. Quatre couvertures. Celle-ci, c'est celle extérieure. Et là, on se rend compte un peu mieux des différentes couvertures. Ce qu'on vient de lire, c'est cette couverture-là, qui est un peu moins longue que les autres, évidemment, pour que ça puisse être mieux abrité. Donc c'est la plus belle des couvertures, c'est artistiquement travaillée avec les chérubins, hein. C'est la couverture intérieure. Et bien sûr, n'oublions pas, quand on médite et on réfléchit sur le tabernacle, le tabernacle, c'est l'accès des hommes dans la présence de Dieu, puisque Dieu demeurait dans le tabernacle. Et nous voyons progressivement, nous comprenons que l'Ancien Testament a été écrit comme étant l'ombre des choses à venir, dit le Nouveau Testament. Donc, ces choses-là, que Moïse devait faire d'après un modèle très précis, en fait, pour Dieu, c'est déjà la préparation d'une meilleure compréhension de toute l'œuvre de Christ. Mais comme nous, chrétiens, nous avons accepté Christ, nous sommes devenus un avec Christ, la demeure de Dieu autrefois qui était le tabernacle, aujourd'hui la demeure de Dieu, le temple du Saint-Esprit, c'est nous, individuellement. Le corps de Christ, c'est aussi l'Église. Et donc, on peut faire plusieurs niveaux d'application. Et vous verrez comment, à la fois, des symboles vont bien représenter la personne de Jésus-Christ et donnent aussi des exhortations, des perspectives de la nature de la vie chrétienne que nous avons en Christ, par voie de conséquence. Alors, déjà, cette première couverture, il est parlé du fin lin, blanc, pur, c'est le premier détail. Et bien sûr, nous savons que là, il y a un symbole de pureté, les habits de fin lin, on en a parfois parlé à plusieurs reprises. Le bleu, le bleu représente tout ce qui est céleste. Le pourpre est une couleur royale. Et l'écarlate aussi parle de gloire et de royauté. Et vous savez que Jésus-Christ avait trois ministères. Vous les connaissez, les trois ? Roi, prophète et sacrificateur. Ce sont les trois fonctions de Christ. Nous en reparlerons. Et ces fonctions sont aussi, on les voit dans les détails des éléments que Dieu a voulu choisir pour faire ces tapis. Donc on a là toute la personne de Christ qui nous enveloppe. Tout ce qui est beau dans le tabernacle, c'était bien sûr aussi ce tapis, et qui représente toutes les facettes de Christ, à la fois dans sa nature et dans ses fonctions. D'ailleurs, les couvertures aussi sont des clins d'œil à différentes fonctions, puisque, après, nous verrons un tapis de poils de chèvre, et puis ensuite un tapis de peau de bélier teinte en rouge. Et quand on regarde dans la Bible les équivalences, cela donne aussi des rappels sur la fonction de Christ. Donc il y avait toutes ces couleurs, et cette première couverture, en fait, on ne va pas tellement la voir quand on est dedans, sauf au fond, en fait. Derrière, c'est derrière qu'on la verra le plus. Mais c'est la plus magnifique. Et ces couleurs donc, que l'on voit au fond, toutes ces couleurs, on les retrouve dans les rideaux à l'entrée aussi, et dans le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Alors, la chose qui est intéressante, c'est que le Seigneur va demander aussi qu'il y ait des chérubins. Donc, c'est des chérubins artistiquement travaillés. Alors, où est-ce qu'on voit pour la première fois des chérubins ?
Sur l'arche.
La première fois. Dans Genèse, au jardin d'Éden. Et là, tout à fait, ils gardent l'entrée. Voilà, donc, il ne pouvait pas être question, une fois que l'homme avait chuté, de goûter l'arbre de la vie. Et quand vous regardez Genèse, vous découvrez un détail important, mais qui, si vous faites des liens et des passerelles dans la Bible, alors ça devient de plus en plus intéressant. Donc quand il est dit ici que le Seigneur, verset 24 au chapitre 3, il chassa Adam Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et en fait, on découvre dans la Bible que ces êtres célestes étaient les gardiens de la sainteté de Dieu. Et il n'était pas question que quoi que ce soit s'approche pour souiller là où était le Seigneur. Donc, dans Nombre, alors je crois que c'est Nombre, chapitre 7, verset, alors que je vérifie, Nombre 7, verset 89. Et on peut, quelqu'un veut lire le verset 89, parce que quelqu'un a mentionné que c'était aussi sur l'arche, dans le lieu très saint, là où était la présence, la gloire de Dieu, se trouvaient aussi des chérubins. Alors ce verset est intéressant à lire.
Lorsque Moïse entrait dans la sainte assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du nom du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel.
Voilà. C'est là où la gloire était placée, le Seigneur était là, entre les chérubins aussi. Oui ?
Ouais, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un passage, je ne crois pas, où on a la description d'un chérubin ? Parce que comment est-ce qu'ils l'ont représenté sans image ?
Alors, c'est une question. Plus tard, Ézéchiel va avoir une vision, mais ça n'aide pas parce que. Il voit des êtres avec des yeux partout, avec des roues qui tournent, avec. Alors c'est très compliqué et on ne sait pas comment ils ont réalisé ces chérubins et sur quel modèle. Si Dieu a donné un modèle précis fait d'après le modèle, peut-être que Dieu a montré le modèle à Moïse pour qu'il soit exécuté d'une certaine manière.
C'est pas écrit sur la construction même de l'arche, du coffre de l'Alliance.
Par des ailes.
Oui, il y a des...
Il y a moins une description des ailes, quoi.
Oui, des positions d'ailes qui couvrent tout à fait. Mais voilà, donc... mais je pense que Dieu a donné à Moïse, parce que c'est souvent répété, fait exactement d'après ce qui t'est montré. Donc je crois que Dieu a montré beaucoup de choses à Moïse.
Il n'avait pas la liberté de faire ce qu'il voulait.
Non, c'était très précis. Mais après, ce n'est pas lui qui a réalisé. Et nous verrons tout à l'heure les ouvriers.
Il a contrôlé.
Il a contrôlé et ils exécutaient, les ouvriers exécutaient d'après le modèle aussi. Et donc, il était le chef de chantier. Et voilà, et il leur dit, voilà, il faudra faire ça, ça et ça. Et Dieu a équipé certaines personnes avec certains dons pour le réaliser. Donc je pense que par Moïse, il a dû avoir quand même un modèle. Alors, il y a un psaume aussi que je peux vous donner, le psaume 99, verset 1. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins. Donc l'Éternel est assis sur les chérubins, ou une autre version dira, il siège entre les chérubins. Bien qu'il y ait un endroit où les chérubins, alors certains avec qui je discutais pensent que c'était que les chérubins, ce n'était pas tout à fait des êtres, c'était un moyen de locomotion, enfin, à l'imagination. Voilà. Parce que dans 2 Samuel 22, 1, on rit, mais regardez, 2 Samuel 22, 1.
S'ils ont des ailes, ils peuvent aussi servir à
vous. Oui.
Mais bon, ça ne va pas nous empêcher.
Moi, je crois que ce sont des êtres vivants, hein. Ce sont des êtres avec beaucoup de puissance et de.
2 Samuel 22, 1.
Oui. Non, c'est pas ça.
Non.
11, pardon.
2 Samuel 11.
Non, ça, je.
Ouais. Verset 11 au chapitre
11. Il est monté sur un chérubin et il volait. C'est 2 Samuel 22, 11.
Pardon, c'est 11.
Oui.
Il est monté et il volait.
Il est monté sur un chérubin.
Voilà, donc
c'est... Et il volait.
Oui, donc pourquoi
ça revient à la description d'Ézéchiel.
Voilà, voilà, Ézéchiel avait des ailes qui tournaient. Ils avaient. Alors je pense qu'il y a des. C'est une vision à la fois aussi remplie d'images, parce que les quatre faces correspondent aussi aux quatre portraits des évangiles. Hein, la face du lion, la face du bœuf, de l'homme, hein, et de l'aigle. Voilà, qui va dans les cieux. Donc ça correspond tout à fait à Matthieu, Marc, Luc, Jean. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? C'était peut-être un peu particulier. Il faut savoir que quand vous lisez Matthieu, je vais un peu vite, pardon. Quand vous lisez Matthieu, il est présenté comme le roi des Juifs. Et dans les symboles bibliques, à plusieurs endroits, vous trouverez le lion. Marc, c'est le serviteur. D'ailleurs, il n'y a même pas de naissance, hein. Ça commence, l'évangile commence aussitôt, il fit ceci aussitôt. Donc ça, c'est le bœuf. Après, Luc, qui est médecin, présente le Fils de l'homme. Et Jean parle beaucoup de la divinité de Christ, le Fils de Dieu, représenté par l'aigle qui monte dans les cieux. Vous voyez ? Donc,
c'est le symbole du Judas aussi.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Mais juste pour donner un petit éclaircissement par rapport aux moyens de l'Europe, c'est...
Oui.
Nous, ça peut nous paraître bizarre, mais par exemple, sur moi, les rois étaient portés.
Il y avait des porteurs. C'est vrai, il y avait des porteurs.
Et donc, en fait, ces porteurs qui portaient le roi, c'était en fait son moyen de locomotion.
Il se manifestait en position de royauté,
voilà,
et d'excellence.
Hein. Le roi avait ses propres porteurs.
Et alors, dans Ézéchiel 1:10, vous avez la description des quatre faces qu'avaient ces chérubins. Hein.
Ézéchiel,
au chapitre 1. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une description, remplie de... Ben, très impressionnante, ça dépasse la science-fiction. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une partie imagée pour le prophète, pour qu'il transmette des choses en tout cas, ces fameux chérubins sont des êtres célestes. Et dans l'Apocalypse, vous retrouvez ces êtres célestes qui n'arrêtent pas de louer Dieu jour et nuit, de dire « Saint, Saint, Saint et l'Éternel ». Et donc on voit, le Seigneur a créé les êtres humains, on est dans un univers. Mais déjà sur Terre, il y a d'autres univers. Il y a l'univers des poissons, l'univers des oiseaux. On sait qu'il y a des êtres célestes, il y a des anges. Et que une partie de ces êtres célestes ont suivi Satan dans sa chute et sont devenus ce qu'on appelle des mauvais esprits, des démons. Mais il y a d'autres, des myriades d'anges. Et quand Christ est arrêté, il dira, mais je pourrais demander à des myriades d'anges d'intervenir. Qui sont au service de Dieu. Et un des services de Dieu, c'est c'est d'entourer le roi, de le porter. Alors, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est symbolique? En tout cas, les gens comprenaient toute la majesté autour de ce roi, et surtout de le défendre, et de proclamer sa sainteté. Alors, à la chute, le chérubin est là avec une épée flamboyante. Mais cette épée, il va falloir qu'elle serve un jour pour que le chemin vers le paradis s'ouvre à nouveau. Et c'est pour ça qu'il y a les chérubins dans le tabernacle. Parce que Christ a accepté d'être transpercé par cette épée. Et alors, spirituellement parlant, il a lui-même affronté tout ce qu'exigeait la sainteté de Dieu et sa justice pour que, nous allons le voir, nous ayons accès jusque à l'intimité de Dieu, à l'endroit le plus important. Et c'est pour cela qu'il y a donc ces chérubins qui sont symboles de sainteté, de justice, qui entourent le Seigneur et qui ont eu la mission de protéger la sainteté de Dieu dans un sens, avec cette épée flamboyante. Voilà, donc, voilà pour cette magnifique couverture. Dans ce tabernacle, alors il va y avoir un deuxième tapis, poil de chèvre. Donc, 15 mètres sur 2 plus 11 tapis, ça fait aussi autour de 330 mètres carrés. C'est énorme. C'est quelque chose d'incroyable. Et nous avons la description dans Exode 26, verset 7. Et la couverture de poils de chèvre oriente nos pensées vers toutes ces personnes qui étaient revêtues de poils de chèvre, de peau de chèvre. Et principalement les prophètes et les serviteurs de Dieu. Donc cette couverture rappelle aussi le service, la séparation avec le mal, et le service d'humilité, de dépouillement, et ces prophètes qui étaient à part, on pense à Jean-Baptiste, qui était à part dans le désert. Mais Jésus-Christ, lui-même, est présenté comme un prophète. Alors, la première fois qu'on parle de cela, c'est Moïse qui en a parlé. Et Moïse avait dit, dans Deutéronome 18:18, une indication d'un prophète qui viendrait. Et c'est dans Acte 3:22 que nous avons l'application du verset de Moïse, qui est cité en fait. Je susciterai un prophète comme moi. Donc il est question de Christ. Et ce prophète, comme les prophètes, avait un devoir de sainteté, de mise à part pour le Seigneur. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce ministère de prophète. Alors, prophète, le mot lui-même veut dire parler pour Dieu. Et il parlait en déclarant les choses, il parlait en prédisant les choses, mais il parlait aussi en interprétant les choses de la Bible. Donc il y avait une œuvre de déclaration, une œuvre de prédiction et une œuvre d'interprétation. Et le Seigneur, quand il parlait de la parole de Dieu, révélait toutes sortes d'aspects de la parole de Dieu. Et cette couverture, donc, rappelle donc tous ces prophètes. Vous avez bien sûr Élie, qui était où ce détail est donné, les poils de chèvre. Jean-Baptiste. Vous avez aussi dans Zacharie. Voilà. Et donc, par cette couverture, nous avons ce symbole. Elle enveloppait tout le sanctuaire, elle constituait déjà une protection, parce que et il y avait une séparation quand même très très nette avec l'extérieur. Et après, il va y avoir une troisième couverture, peau de bélier teinte en rouge. Alors, pourquoi une telle couverture, on n'a pas les dimensions de celle-là. La première fois qu'on voit vraiment un bélier, c'est aussi lié au sacrifice. c'est quand Isaac a été épargné et un bélier a été donc a remplacé Isaac. Le bélier aussi était la victime du sacrifice, hein, permettant la consécration du sacrificateur. Quand un sacrificateur commençait son service, pour être consacré, il était donc apporté une offrande qui était un bélier. Et bien sûr, la couleur rouge nous rappellera aussi le sang. Donc, cette couverture, on peut le dire, évoque la consécration de notre Seigneur dans sa vie, du don de sa vie. Donc, on a du mal même à imaginer tout ce qu'a été le combat vers la croix, accepter de prendre une place que lui ne méritait pas. Parce que c'est un peu cela qui... Hein. Et donc, il est mort pour nous, afin que nous, croyons, qui croyons, nous vivions, et nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. C'est ce que dit dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Donc, peau de bélier, teinte en rouge...
Recouvert de peau de dauphin.
Pardon ?
Recouvert de peau de dauphin.
Oui, des dauphins. Tiens, tiens, tu as trouvé des dauphins. Là. Oui. Alors, tu as quel verset ?
Eh bien, le verset où il y a les peaux de bélier teintes en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus.
Alors, comment tu comprends ce verset ? Regarde l'image. Enfin, c'est pas très clair.
C'est la dernière, c'est celle qui brille.
En fait, c'est la quatrième. La quatrième couverture, c'est la dernière. Alors, voilà, peut-être que ça ressemblerait un peu plus, quelque chose d'uni. Alors, ce dauphin... Le mot dauphin en hébreu c'est taraz. Et on s'est demandé si c'était vraiment un dauphin ou si c'était un blaireau. Oui, on n'était pas très sûr. Hein. Darby donc parle de. De dauphin, ce que nous savons, et c'est pour ça que je vais vous montrer quelque chose.
C'est de la montagne.
Ça, c'est costaud, hein, comme pour.
Ouais, c'est pas tout à fait de la
montagne. Ouais, c'est pas tout à fait la montagne, ouais, on dirait.
C'est de la montagne. C'est des dugongs. Alors, on les trouve dans le Pacifique, mais comme par hasard, ils étaient assez nombreux dans la mer Rouge.
Ah bon ?
Et alors, on va regarder Nombre chapitre 4 maintenant. Nombre 4. Nous voyons qu'au départ, verset 5 par exemple, du camp. Aaron et ses fils viendront démonter le voile, ils en couvriront l'arche, ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin, ils étendront par-dessus un drap entièrement bleu. Voilà. Pareil pour d'autres choses, tout au long de ce texte, on voit, verset 12 par exemple, tout ça s'est enveloppé dans des peaux de dauphin.
Ça devait être imperméable.
Exactement. Et c'est le mot qu'il faut retenir ce soir, l'étanchéité. Hein ? Et oui, c'est logique. Hein ?
C'est sûr. Le mot de dauphin.
Il y a des sons, blaireau, dauphin.
Oui. Mais alors, en tout cas, cet animal-là se trouvait très facilement dans la mer Rouge. C'est quand même un animal qui fait plus de 3,5 m, qui fait 3,50 m.
Ah, donc c'est énorme.
C'est pas un petit truc.
C'est énorme.
Alors, dans la mythologie, je sais que certains aiment la mythologie, c'est cet animal qui a donné naissance au mythe des sirènes. Parce que quand vous prenez certaines photos et tout, il a parfois la tête humaine avec un sourire.
Hein, vous verrez. Dans l'eau.
Ah oui! Bon, vous verrez, c'est intéressant. Donc, dans le nombre 4, tous les éléments du sanctuaire dans le voyage, parce que comme ce n'était pas des semi-remorques, comme il vous disait Benjamin, parce que quand on voyage, si les choses dans un véhicule, elles ne se mouillent pas.
Eh oui.
Mais quand il marchait, il pouvait être sous la pluie.
Ouais.
Et il fallait la peau de dauphin autant en marchant que lorsque le tabernacle était dressé. Il fallait toujours qu'il y ait cette protection. Et le mot important, et on trouve que c'est finalement normal, pas question qu'il y ait des infiltrations. D'ailleurs, dès qu'il y a une construction, hein, on l'a vu ici aussi, hein, même pour le hall d'entrée, tout ça, il fallait rendre les choses étanches. C'est, voilà, donc peut-être certains ont déjà eu dans leur vie des petits problèmes d'infiltration. On voit que de suite, c'est... Ça fait des dégâts. C'est pas possible dans un sanctuaire qu'il y ait des infiltrations. Mais déjà, réfléchissez à l'application. Elle est énorme. Elle est énorme. Est-ce que moi, où Dieu a dit dans le Nouveau Testament, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Est-ce que chez nous, il y a de l'étanchéité? Ah, ça fait... Tout d'un coup, ça prend une tournure incroyable. Et le Seigneur est venu, alors, il est venu nous envelopper, il est venu avec des choses magnifiques, il a été transpercé par l'épée du chérubin, il est venu comme un prophète, il est venu avec humilité, séparé du mal, il est venu jusqu'au sacrifice, et il est venu, enfin, constituer une véritable étanchéité, déjà parce que en Christ le jugement ne peut pas m'atteindre, et en Christ nous avons tout pleinement, et il peut être une protection absolument totale si nous savons nous y réfugier. Et dans ce principe d'étanchéité, ce n'est pas le seul endroit où on le retrouve. Il y avait aussi, puisqu'on a parlé de l'arche où se trouvait le Seigneur, il existe aussi une autre arche, hein, où Moïse, quand il était tout petit, a été placé pour être sauvé donc d'un massacre. Cette arche était un coffre, hein, c'est le même mot qui est utilisé pour l'arche de Noé aussi. Mais il y a aussi, puisque d'un côté Moïse était exposé à des persécuteurs, l'arche de Noé était sous le déluge d'un jugement divin, mais pour ceux qui vont être sauvés, il fallait aussi, dans ces cas-là, une totale étanchéité. Une protection réelle. Et quand le tabernacle était dressé, il pouvait y avoir toutes sortes d'intempéries, des tempêtes de sable aussi, pas que de l'eau. Le sable, enfin, les pluies, enfin, n'importe quoi pouvait venir. L'arche de Noé a été conçue pour que l'eau ne pénètre jamais. Et il est dit pour Noé, tu feras une arche de bois de gopher, tu l'induiras de poids, en dedans et en dehors. Alors tu induiras le mot, ce mot-là d'induire, c'est un mot en hébreu, kafar. Enfin, c'est pas le kafar, le kafar. Et ce mot, alors c'est très intéressant, alors il faut voir, mais on peut le faire avec Internet aussi, on peut retrouver les correspondances. Induire de poids, induire, c'est aussi traduit par expiation dans d'autres endroits de l'Ancien Testament. Par exemple, dans Exode 29, 37, tu feras les expiations sur l'autel, kafar, comme tu induiras de poids ou de bitume l'arche. Et dans Exode 30, 16, si vous regardez Exode 30, 16, il est parlé de rachat. Et le mot rachat est aussi induire. Le bitume vient enduire. Enduire. Donc, l'arche pour que l'eau n'entre pas. Vous avez Exode 31, 20. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, un prix, kafar. Dans Nombre 35, 31, le mot kafar est traduit par rançon. Donc, en dire. Rançon, rachat, tout cela vient du même mot.
Expiation.
Il y a expiation. Et tu l'enduiras de poids, ou de bitume. Donc une étanchéité totale. Proverbe 18:10 nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. » Dans Jean 10:27, il nous est dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. » Et la vie éternelle ne dépend pas de notre faible prise sur Christ ou de notre compréhension sur Christ, mais de son étreinte sur nous. Le Nouveau Testament nous dit « Revêtez-vous de Christ. Venez du côté de Christ parce qu'il sera un abri où rien ne passera. » Et ça fait partie des merveilleuses doctrines de l'assurance du salut.
Plus on se réveille de Christ, plus on devient étanche.
Voilà. Alors, on est déjà étanche dans le sens que nous avons la vie éternelle, donc on est sauvé, mais il y a une étanchéité qui devient très effective, parce que si on est en Christ, si nos pensées sont sur Christ, si on, ben, tout d'un coup on s'aperçoit, j'ai passé la journée sans tomber, peut-être comme d'habitude, ou voilà, tout d'un coup on s'aperçoit que le péché a moins de prise. Évidemment, si notre attention et nous laissons partir nos membres, nos pensées, notre énergie dans d'autres choses, on chutera beaucoup plus souvent, on perdra cette étanchéité. Et plus on s'éloigne du Seigneur, alors plus on prend l'eau. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc là, on voit aussi tous les effets qu'a la personne du Seigneur par son œuvre, par sa position, et nous qui nous approchons et qui avons franchi le rideau pour connaître l'autel, c'est-à-dire la croix, pour avancer vers la présence de Dieu. Oui ?
Est-ce que c'est aussi une manière d'être protégé de l'adversaire aussi ?
Oui.
Cette étanchéité, parce que j'imagine dans le désert, si ceux qui étaient amis d'Israël voyaient cette espèce de grande tente et voyaient de haut un truc sombre, noir et tout, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'il y avait à l'intérieur de telles quantités d'or et de richesses. Enfin, j'imagine un petit peu ça, quoi. Et ça, on est. Voilà, Dieu nous protège aussi de l'ennemi, quoi.
Mais on n'est pas là, oui.
Non.
Mais c'est vrai, nous allons en reparler, vu de dehors, ça ne paye pas de mine.
Oui, c'est ça.
Bon, alors ça ne veut pas dire que nous, chrétiens, on doit passer inaperçus. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Nous allons trouver la bonne application à ça. Pourquoi extérieurement c'était banal, c'était si magnifique à l'intérieur. Si on l'applique à Christ, nous avons des passages comme Ésaïe 53, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc on y est un peu, quoi, là, au premier coup d'œil. Hein. Et là, c'est un coup d'œil lointain. Évidemment, il faut se dire que nous, en Christ, on devient comme on peut faire le sacrificateur, on peut aller jusqu'au bout. Jusqu'au sein des saints maintenant. Et donc, ce que l'on va vivre n'a plus rien à voir avec ce que l'on pensait quand on voyait les choses de loin. C'est autrement plus précieux, plus on avance dans le lieu très saint. Vous voyez ? Et quand Christ, là je vous cite ce que Pierre d'Espagne, qui aimait faire des études sur le tabernacle, disait, n'est-ce pas là, par rapport à Christ, une connaissance superficielle que la plupart des hommes ont ? Jésus s'est tellement identifié à notre humanité que même ses contemporains n'ont vu en lui qu'un simple homme semblable à eux. N'est-ce pas là le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Disait-il de lui à maintes reprises. Jésus naquit comme un enfant, il vécut comme un ignoré et il mourut comme un malfaiteur. Ça, c'est la connaissance extérieure des gens sur Christ. Et voilà, il va falloir pénétrer, il va falloir découvrir qu'il y a d'autres couvertures, qu'il y a autre chose.
Alain, les couvertures, elles étaient... elle recouvrait chacune tout le tabernacle. Oui. Et elle était une sur l'autre.
Oui.
Et chacune tout couvrait tout le tabernacle.
Tout à fait.
Super rigolant.
Aussi. Oui. Aussi. Oui. Et quand le tabernacle bougeait, tout était recouvert de peau de dauphin, sauf l'arche qu'on voyait. Enfin, vous ne voyez pas l'arche. Si vous avez des photos sur internet, vous voyez, des gens se promenaient avec une arche, c'est pas possible. Elles étaient recouvertes, il y avait la peau de dauphin, et pour qu'on reconnaisse que c'était l'arche par rapport aux autres, parce que...
Par rapport à la distance qu'il fallait...
Et respecter aussi, donc il y avait un drap bleu qui la distinguait. Sur la peau de dauphin. Voilà. Et là, j'ai trouvé, on parlait du côté peu attrayant. J'ai trouvé un commentaire de Luther, j'avais écrit ça il y a très très longtemps, je l'avais gardé, il faut que je le tape, parce que j'ai perdu le papier. Donc je l'ai encore, mais je vous confesse que j'ai mis 4 jours pour le retrouver, ce papier. En fait, je me suis dit, maintenant je me souviens, je vais le mettre dans un livre qui parle de tabernacle, comme ça je le retrouverai de suite. Voilà, donc...
Bon. 4 jours, hein.
4 jours.
C'est
quasiment... Quel livre sur le tabernacle ?
Ben, ce livre de Pierre d'Espagne, là. Un vieux livre que j'ai de Pierre d'Espagne. Qui est très sympa. Alors, je vais vous lire ce qu'a dit Luther. Parce que nous avons compris, vous voyez comment avec le tabernacle, on peut faire une projection sur Christ et aussi son humanité, son côté... J'ai paru comme un simple homme, alors qu'à l'intérieur, c'est la divinité, c'est toute la gloire. Luther va faire une application destinée aux chrétiens. Et il va prendre, et on se demandait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, On s'est dit, oui, il y a un côté pratique, ça n'attire pas les regards. S'il y a des bandits, ils ne vont peut-être pas s'imaginer qu'il y a tout cet or. Pourquoi pas? Mais il y a aussi une application pour le pêcheur. Et voilà l'application que je trouve très, 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 très chouette de Luther. C'est pour ça que je me l'étais traduite là. C'est une grande gloire pour nous pêcheurs, en croyant en Jésus-Christ et en l'ayant reçu avec toute sa force, sa puissance, sa sagesse, sa justice, selon qu'il est écrit, celui qui croit en moi et en lui je demeure. Donc c'est une grande gloire. Christ est en nous. D'ailleurs, il y a un passage dans le Nouveau Testament qui dit « Nous portons ce trésor dans un vase de terre. » Alors il ajoute « Demeure admirable, merveilleux tabernacle que nous sommes, bien supérieur à celui de Moïse, et tout orné en dedans d'une manière magnifique, de tapis superbes, de voiles de pourpre, de meubles d'or. Tandis qu'au dehors, comme sur le tabernacle que Dieu ordonna de construire au désert de Sinaï, on n'aperçoit qu'une apparence grossière de peau de bélier, de poils de chèvre, de dauphin, etc. Souvent, les chrétiens bronchent. Et à ne les voir qu'extérieurement, ils ne semblent que faiblesse et opprobre. Mais n'importe, au-dedans de cette infirmité, de cette folie, habite secrètement une puissance que le monde ne peut connaître et qui pourtant surmonte le monde, car Christ demeure en eux. J'ai vu quelquefois des chrétiens qui marchent en clochant, en boitant, dans une grande faiblesse. Mais quand vient l'heure de combattre ou de comparaître à la barre du monde, Christ s'agite soudainement en eux. Ils deviennent si forts et si résolus que le diable effrayé s'enfuit à leur vue. Alors voilà comment prêchait Luther. Et le contraste entre l'extérieur et l'intérieur, à cause de ses couvertures, lui rappelait le contraste entre ce que l'on voit des chrétiens et ce qu'ils sont véritablement en Christ dans ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est aussi encourageant cet angle de vue de cet homme qui avait fait ce commentaire. Alors pour Christ, c'est vrai que les gens l'ont méprisé, il a paru tellement anonymement, humblement, hein, que voilà, ça, c'est l'apparence. Hein, et ils se sont arrêtés à ça, ils se sont arrêtés là. Ils avaient devant eux celui qui a créé le monde. Enfin, c'est incroyable. Hein? Celui qui connaît tout. Voilà. Et donc, c'est sûr que quand un coup d'œil sur Christ et savoir qui il est vraiment, ben c'est la même expérience que de voir le tabernacle de loin ou de le visiter jusqu'au bout. Et pour nous, chrétiens, c'est justement parfois ce contraste entre notre l'image que nous dégageons, qui peut être parfois assez quelconque aussi. En tout cas, c'est l'angle qu'avait pris Luther. Et pourtant, ces mêmes chrétiens pourront tenir jusqu'au bout et avoir des moments magnifiques dans l'épreuve, accroché au Seigneur. Voilà des applications que l'on peut faire aussi sur les couvertures. Mais pour toutes ces choses-là, je voudrais déjà vous montrer un chapitre intéressant. Exode 35. On y reviendra probablement. Parce que nous le reverrons dans une série de choses. Qu'est-ce qui était indispensable pour que le témoignage, le tabernacle existe? Et dans Exode 35, il est aussi question des fameuses couvertures, mais pas que, il y a aussi toutes les autres choses. Mais les couvertures y sont. Hein. Donc, l'appel est lancé par Moïse au verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande de l'argent, de l'or, de l'airain, des étoffes d'un teint bleu, en pourpre, en croix moisie, des fins lins, de poils de chèvre, des peaux de bélier, teintant rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates, bref, il y a toute une liste de ce que les gens devaient apporter. Mais ce qui m'a frappé quand j'ai regardé ce texte, c'est que le verset 5 dit « Tout homme dont le cœur est bien disposé ». Vous avez cette expression plusieurs fois. Vous la retrouvez au verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté. Et ça, ça commence à ouvrir l'esprit dans lequel nous devons à la fois bâtir notre vie, puisque nous sommes la demeure de Dieu, et participer à la vie de l'Église aussi. Et il y a toujours cette notion avec cœur, de bonne volonté. Verset 22, le cœur bien disposé. Verset 26, verset 29. Vous voyez ? Donc tous ces vers. Voilà. Alors, il y avait un enthousiasme. Ils étaient prêts à tout préparer pour que le Seigneur vienne habiter. Si vous invitez quelqu'un chez vous que vous aimez, qui vous tarde de voir, ben vous préparez tout pour sa présence. Et une visite faite avec le cœur de bonne volonté et bien disposé est tout autrement agréable que celui qui traîne les bras. Voilà, ça fait la même chose. Mais il y a un autre aspect tout aussi souvent répété dans ce chapitre 35. Verset 25. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, qui avaient l'habileté, donc elles ont cousu et fait ces couvertures. Parce que il y a deux aspects dans la vie chrétienne. Il y a la bonne volonté et il y a l'habileté. Et l'un ne peut pas remplacer l'autre. Autant nous devons être tous bien disposés à apporter des offrandes au Seigneur, mais après, Dieu va distribuer des dons, des habiletés, des compétences pour l'exercice du service et de la vie de l'Église. Et vous voyez un peu plus tard, verset 31, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu avec sagesse, intelligence, de savoir. Et c'est Dieu qui a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, et on verra, pour faire un chandelier d'une seule pièce, magnifiquement brodé, c'est pas simple. Donc, il va y avoir de l'habileté, de la compétence. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu nous rend capable à chacun de nous de faire quelque chose. Alors, c'est pas évidemment, certains sont habiles pour certaines choses, d'autres pour d'autres, mais nous sommes tous sauvés pour servir. Et dès que quelqu'un se convertit, il était autrefois inutile, il devient utile. Et je pense que la richesse d'une église, c'est un cœur bien disposé et la bonne volonté, et c'est de pouvoir mettre au service du Seigneur les compétences que Dieu nous donne. S'agissant de la bienveillance et de la bonne volonté, ceux qui avaient l'habileté et les compétences sont allés voir Moïse pour une réclamation. Savez-vous laquelle? Ils avaient un problème. Le problème, vous l'avez au chapitre 36, verset 4, « Tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage. » Grève. On en peut plus. On s'arrête. Et pourquoi? Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Vous vous rendez compte? Ils n'arrivent même plus à travailler. Et ça arrivait de partout. Et donc, ils se sont arrêtés. Ils sont allés voir Moïse. Attention, là, il faut gérer ça. Non ouais. Alors, toute application à une situation du 21e siècle est bienvenue et fortuite. Mais oui, il y en avait tellement, ils étaient obligés de stopper.
Comme sinon, nous, on avait tellement d'argent.
Oui, oui, mais voilà, Jean a osé faire l'application à laquelle tout le monde pensait.
Sinon, on serait obligé de contrôler les comptes par un expert.
Ah oui, hein. Voilà. Oui.
Je pense à une chose, c'est Paul qui parle de la distribution des de différents dons à différentes personnes.
Oui. Oui. Il en parle et il dit que c'est l'Esprit de Dieu distribue à chacun comme il veut.
Oui.
Donc ça vient de lui, il fait comme il veut.
Voilà. Une autre chose aussi, la largeur des tapis de 2 mètres, enfin 4 coudées, je pense que ça correspond aux dimensions des métiers à tisser. Parce qu'on peut faire aussi long qu'on veut, mais le métier à tisser, il a une certaine largeur.
Je n'ai pas vérifié, peut-être qu'ils sont de 4 mètres, exactement.
Non, c'est de 2 mètres.
Ah, 2 mètres.
4 coudées, 2 mètres.
Oui. Oui.
Pourquoi Dieu demande qu'il y ait des dimensions sur chaque chose?
Alors, pas sur chaque, il y a des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, le chandelier, qu'on verra la prochaine fois, on ne sait pas quelle taille il faisait. La cuve, on ne sait pas. Mais après, sinon, c'était très précis.
Oui.
C'était très précis parce que beaucoup de... Alors, un objet en lui-même, par exemple, la cuve, bon, il fallait une cuve, c'est pas grave qu'elle soit d'une taille ou d'une autre. Mais beaucoup de choses sont interdépendantes. C'est-à-dire, là, Gino pourrait nous expliquer, dans un bâtiment, si on fait des voilà, il faut que tout... Si la porte est plus grande que le trou, ça ne va pas la faire. Bah, il faut que tout soit en harmonie. Il y a du symbole avec des dimensions, avec les... Mais... Mais il est vrai que là il y a une interdépendance pour que le bâtiment soit cohérent, soit solide, soit ben, il fallait voilà déterminer des dimensions, hein, et d'ailleurs je pense que c'est une précieuse leçon aussi pour l'harmonie d'une église, de pouvoir aussi pouvoir être adaptables les uns aux autres, de pouvoir se compléter. Alors il est vrai après qu'il y a des choses que l'on peut dire sur les tailles. Alors Salomon va faire un peu exploser toutes ces dimensions, mais elles sont importantes. Et donc il y avait donc, pour terminer, sur les couvertures et les tentures, il y avait donc, en résumé, vous vous souvenez, il y a la porte extérieure qui avait toutes les couleurs que l'on va retrouver dans la plus belle des couvertures à l'intérieur. Donc il y a la porte extérieure, hein, que nous avons vue. Il y a aussi un tissu, un rideau ici à l'entrée. Nous l'avons dans Exode 26, 36.
Oui.
Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre, cramoisi de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Donc en fait, ce rideau, c'est un deuxième rideau. Le premier rideau va permettre d'arriver à la croix. Et la cuve des reins nous rappelle donc le fait que par la parole, j'ai un accès quotidien pour purifier mon cœur dans le service. Et là, les sacrificateurs se lavaient régulièrement les mains à cause même du service. Nous avons régulièrement besoin de purifier nos pensées par la parole, par l'eau de la parole, par cet entretien. Mais on va passer à un deuxième rideau et entrer dans une vie chrétienne et une relation avec Christ beaucoup plus riche, parce que Dieu a l'intention de nous faire profiter du chandelier, de l'autel des parfums, qui symbolise l'activité de relationnelle avec Dieu, des prières, et des pains qui nourrissent. Et il va y avoir un troisième rideau. J'ai trouvé ce rideau à l'intérieur, avec des chérubins. C'est peut-être pas du tout comme ça. Et derrière ce rideau, il y avait l'arche. Et même le sacrificateur ne pouvait y entrer qu'une fois par an. Maintenant, nous savons qu'en Christ, tout cela est ouvert. Mais tout le monde, même si c'est ouvert, ne vient pas jusqu'au bout. C'est ça qui est triste. Alors, j'ai essayé de tenir, mais je vois que c'est impossible. On va quand même lire 2-3 versets dans Hébreu, parce que vous allez voir tout d'un coup la réalisation et comprendre l'application de tout ce qu'on vient de voir. On va juste regarder dans Hébreu. Il est dit d'abord au chapitre 9. Verset 6. Ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, c'est-à-dire entre dehors et dedans. Et dans la seconde, le sacrificateur seul entrait une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offrait pour lui-même et pour les péchés du peuple. Vous voyez ? Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Il n'était pas encore ouvert. Mais quand Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré de haut en bas. Et un voile immense, c'est quelque chose qui est... Parce que de bas en haut, on pourrait se dire que des hommes l'ont fait. Mais la Bible précise de haut en bas. Alors après, vous avez au verset 11, Christ est venu comme souverain sacrificateur, il a traversé le tabernacle. Plus grand, plus parfait que celui de Moïse, bien sûr. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Voilà. Et donc, vous avez au verset 19 du chapitre 10, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Christ, parce que Christ ayant traversé, allé jusqu'au bout, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est sa chair qui a été déchirée. Il a été transpercé de l'épée des chérubins et a été exposé à la sainteté et au jugement divin. Il y a tant de versets à lire. On va peut-être terminer par Hébreu 4. c'est pas le bon. J'ai noté le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. Non, c'est pas celui-là. Non, il y en avait un autre, mais. Voilà. Il y a du vent ici, j'étais dans un des solutions. Les pages ont tourné toutes seules, c'est possible. Oui, voilà, verset 14. Oui, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et demeurons fermes dans la foi que nous professons. Vous voyez ? Et le verset 16 est vraiment encourageant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce, là où Dieu siège entre les chérubins. Approchons-nous. Et déjà, il n'y a malheureusement pas assez de monde qui passe le premier rideau pour aller à la croix. Ça, c'est très triste. Il y a encore moins de monde qui vont vouloir aller dans une vie chrétienne régulière que l'on découvre avec les éléments du saint, du lieu saint. Et beaucoup se privent de cette intimité d'être devant le trône de la grâce, alors que tout a été préparé. Et pour nous, les voiles, les trois étapes, les trois voiles ne sont pas du tout un problème. Christ a tout préparé. Alors voilà un petit peu des choses que l'on pouvait dégager des couvertures. Et la prochaine fois, alors nous allons passer ce voile, le deuxième, et parler des éléments, et on parlera en particulier du chandelier et tout ce qu'il représente. Voilà, peut-être nous pouvons prier avant de nous séparer. Notre Seigneur, nous te remercions de réaliser que, oui, tu veux vivre en nous. Ta plus grande joie, c'est de faire ta demeure en nous. Mais Seigneur, que nous soyons aussi dignes de te placer vraiment au centre, que nous puissions en toi découvrir une nouvelle protection, étanchéité aux souillures et aux agressions du monde, que nous puissions réaliser, Seigneur, que nous avons tout pleinement en toi. Et merci, Père, pour tout ce que tu nous apprends de ta parole. Que nous ne nous privions pas, que nous nous approchions, au contraire, avec assurance, jusqu'au trône de la grâce. Parce que tu veux nous secourir dans tous nos besoins. Nous t'en louons, Seigneur. Amen.
Amen.
Merci de votre attention et bon retour.